regarder chialer ce gosse. Pleure, pleure, mon petit gars. Dis pourquoi pleures-tu pour rien? Mais pleure, ça me fait du bien. Pleure pour moi qui ne peux pas. Pleure, pleure, mon petit gars. Dis pourquoi pleures-tu pour rien? Mais pleure, ça me fait du bien. Pleure pour moi qui ne peux pas.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Direct sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, dans l'entonnoir, nous recevons André Bitton, le président de l'association CRPA. Alors, quand nous invitons le CRPA, en général, c'est pour parler du droit des patients et des usagers. Eh bien, bonjour.
Bonjour.
Salut à tous, toutes.
Alors, il y a des sujets d'actualité en ce moment concernant le droit des usagers en psychiatrie et santé mentale. Et nous avons d'abord été informés que la Mad Pride n'allait pas se dérouler cette année. Il y a aussi la création d'une espèce d'association générale des associations en France, qui s'appellerait l'UNAS, enfin, c'est même sûr. Et puis, nous allons ensemble constater, faire le constat de l'augmentation des hospitalisations sans consentement ces dernières années. Et le dernier point...
C'est la circulaire sur l'isolement contention et la recommandation de la HAS sur l'isolement et la contention en psychiatrie générale.
Voilà, merci. Eh bien, nous pouvons commencer.
Alors, puisque j'ai été invité, je représente le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie. La nouvelle du mois que nous avons appris le 8 mai est que le défilé mascara de Mad Pride, organisé tous les ans au mois de juin, et qui cette année devait être organisé le samedi 10 juin, a été purement et simplement annulé. Ah, c'était une bonne surprise, puisque nous, on avait critiqué la Mad Pride en 2015 et en 2016. On avait sorti des billets, je cite la chargée de communication de la Mad Pride, incendiaire, à l'époque où la Mad Pride était dirigée ou co-dirigée par Advocacy France, qui est l'association d'usagers qui a initié la Mad Pride en France. Et donc, par un billet sorti par Johan Sidaoui sur son site Comme des Fous, sur le 8 mai 2017, nous apprenons que M. Sidaoui, qui était vice-président de l'association La Mad Pride, a démissionné de ses fonctions, et que ce défilé prévu le samedi 10 juin prochain, c'est-à-dire samedi prochain, n'aura pas lieu, notamment pour cause de dissension interne, parce que des dissensions se sont fait jour à l'intérieur du comité d'organisation, et que les membres du comité d'organisation craignent de voir que leur manifestation pouvait subir un échec cinglant. Autrement dit, entre 2015, où il y avait eu 400 manifestants, 2014, où il y avait eu 500 manifestants, 2015, où il y avait eu 400 manifestants, et l'an dernier, où il y avait eu à peu près 200 à 250 manifestants, il y a une chute libre.
C'est les chiffres des organisateurs ou de la police ?
Non, c'est les chiffres qu'on a constatés. L'an dernier, il y a eu juste à peine 200 manifestants à la Mad Pride. Donc c'était franchement un échec. Et c'est ce que nous, on avait consacré dans un billet publié, notamment sur Mediapart, que la Mad Pride 2016 était un échec patent. Alors là, la conjoncture, semble-t-il, la conjoncture politique, la combinaison des élections et d'état d'urgence ont fait craindre un échec total aux organisateurs de la Mad Pride, avec en plus des dissensions internes entre eux très puissantes, et donc ils ont purement et simplement annulé cette manifestation, hein. Et ce qu'ils nous ont fait savoir officiellement, d'ailleurs très tardivement, début juin. Et à la place, ils devaient organiser une commémoration, un rassemblement commémoratif statique, qu'ils n'ont finalement même pas organisé, laissant apparaître que l'association qu'ils avaient fondée fin 2014 sur la Mad Pride est en train de se casser la figure et n'est plus qu'une organisation rassemblant finalement des représentants institutionnels des usagers en psy, ainsi que des familles, essentiellement des associations d'usagers très compliantes, très dans la ligne, Advocacy France, un brin folklorique, mais très handicapé psy, voilà, France Dépression, Argos 2001 sur les troubles bipolaires, Schizoï sur les troubles schizophréniques, et quelques autres France Dépression également. Bref, pour l'essentiel, des associations qui souhaitent encouragent à la prise de médicaments, donc très pro-médicaments, soit qui encourage à la reconnaissance pleine et entière du statut de fou, d'handicapé psychique, ainsi c'est le cas pour Advocacy France, voire le dernier livre de Claude Deutsch. Enfin bon, bref, quelque chose de parfaitement institutionnel et qui, pour nous, était parfaitement révoltant. Alors, il faut savoir que l'association UMAPSI des usagers, qui s'est créée autour des usagers du centre Antonin Artaud à Reims, dont le médecin-chef est Patrick Chemla, un co-animateur du collectif des 39, cette association qui finalement a pris une certaine indépendance et dont les leaders se sont quand même pas mal émancipés, ont quand même pas mal évolué ces dernières années, ont finalement décidé d'animer avec nous, le même jour que la Mad Pride, une conférence débat, une rencontre débat sur qu'est-ce qu'on pense, nous, de la Mad Pride, puisqu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on pense de cette représentation institutionnelle des usagers en psychiatrie qui nous énerve tous, qu'on n'est pas d'accord avec cette espèce de blackout qui règne depuis 20 ans, où a été mis sur pied la FNAPSI, puis d'autres associations, qui étouffent nos voix, qui étouffent littéralement nos voix. Alors donc, finalement, nous, on a vu, le CRP a eu, au vu du fait que la Mad Pride était annulée, donc on s'est désisté un peu de cette rencontre-débat, et finalement, UMAPSI a décidé de la maintenir, et le même jour, samedi prochain, le 10 juin, à 15h, à la Parade Rente, UMAPSI organise, et on a décidé de se retrouver là, une rencontre-débat sur qu'est-ce qu'on pense, nous, de la démocratie sanitaire, enfin, la représentation institutionnelle des usagers avec laquelle on n'est pas d'accord, et on convie tout le monde à venir en débattre et à faire connaître notre ou nos ras-le-bol.
Samedi prochain, à la Parole Errante.
À la Parole Errante, à Montreuil.
Vers quelle heure est-ce que...
À 15h.
15h.
Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que seule cette initiative de cette rencontre-débat maintenant organisée par l'UMAPSI avec notre soutien aura lieu alors que la Mad Pride n'a pas lieu. Et que cette rencontre-débat est critique par rapport à la représentation institutionnelle des patients en psychiatrie santé mentale, alors que la Mad Pride était totalement acritique et totalement... Donc en fait, ces dissensions internes et nos critiques en rafale des années précédentes ont amené à une débandade complète de la Mad Pride qui n'existe plus. L'association Mad Pride compte exister à travers des manifestations institutionnelles qui vont organiser à la rentrée. Le 15 mars dernier, ils ont organisé une conférence débat au Sénat en présence de sénatrices, mais c'est très sur la ligne santé mentale, vous voyez. Donc vraiment sur le truc très, très institutionnel. Donc eh bien, apparaît donc à l'occasion de cette débandade de la Mad Pride, de cette débinade, une fracture avec des gens et des associations d'usagers hors cadre, dont la nôtre, qui ne sont pas d'accord et qui le manifestent. C'est déjà pas mal. C'est quand même une bonne surprise.
Mais est-ce qu'on peut parler de fracture en ce qui concerne l'UMAPSI ?
Oui.
Qui a quand même une position assez proche du collectif des 39 et d'une certaine psychiatrie.
Alors oui, à l'heure actuelle, oui, parce qu'il y a eu, une évolution, notamment d'Olivia, qui est une des trois leaders de cette association, une évolution critique par rapport à la parole des psychiatres des 39, où de plus en plus, Olivia et Fred prennent une certaine distance critique. Ils affirment une certaine autonomie, et ils affirment, avec notre soutien d'ailleurs, qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont une position autonome qui peut être critique et que le soutien qu'ils accordent au collectif Net 39 n'est pas nécessairement entier, immédiat et automatiquement acquis. Donc il y a ils sont en train de prendre une certaine autonomie, ce qui est une évolution, me semble-t-il, très saine.
Et quelles sont les autres associations avec le CRPA qui contestent cette...
Alors, si vous voulez, il y a cette rencontre débat va mettre en jeu. Alors, d'une part, UMAPSI, nous, on appelle à cette rencontre débat les gens qui sont liés au mouvement des clubs thérapeutiques vont être également là, et des représentants de la commission Psy Nuit Debout. Les commissions psy soins accueil vont être présents, puisque nous, ce qu'on voudrait, c'est que avec ce point sur ce qu'on pense, nous, de critique, on va leur taper du sucre sur le dos, on va bien se faire plaisir, sur la démocratie sanitaire, la représentation institutionnelle des usagers, on va essayer, on va faire le possible pour les aligner autant que faire se peut, parce que franchement, ça fait longtemps que ça dure, il y en a ras-le-bol. Je pense qu'il faut donner la parole à des professionnels, notamment à un certain nombre de syndicalistes, à des professionnels en lutte, pas d'accord avec les restructurations hospitalières, notamment les GHT, pour qu'ils expriment leur ras-le-bol. Parce qu'après tout, ça va de pair. Nous, on en a ras-le-bol de la représentation institutionnelle des usagers. Les professionnels hospitaliers, travaillant en psy, en ont légitimement ras-le-bol, des restrictions de crédit, fermeture de lit, etc., etc., qui leur rendent la vie impossible. Donc, mettre ensemble un peu ces différents désaccords présente un certain intérêt, quitte à ce que nous fassions valoir que nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, parce que nous ne sommes pas du même bord.
Oui, oui.
Mais je ne me fais pas de bile, puisque un samedi vers 17-18 heures, à Montreuil, il y a des salons de coiffure d'ouverts au cas où on se crêpe le chignon.
Bien, eh bien, nous allons passer au sujet que nous avions annoncé tout à l'heure, à savoir la l'UNAAS. Alors, et là, c'est avec trois autres associations d'usagers que le CRPA envisage...
A fait une procédure.
Ah oui, ça y est, oui.
On a initié le 13 mars, procédure. Devant le Conseil d'État, une procédure en annulation du décret du 26 janvier 2017, qui est un décret pris après avis du Conseil d'État, qui est un texte d'application du premier article de la loi santé du 26 janvier 2016, qui a fixé un cadre législatif à l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé. Alors, ce décret donne en quelque sorte un cadre réglementaire et préfigure les statuts qui ont été adoptés par Assemblée Générale Constitutive du 21 mars de l'UNAAS. Et puis après, il y a eu le 23 mai, c'était une AG provisoire avec un bureau provisoire, une AG définitive qui a assis un changement de nom de l'UNAAS, un nouveau président, un nouveau bureau, et l'on va voir de quoi il en retourne. Et qu'est-ce que l'UNAAS ? Alors tout d'abord, l'UNAAS, qui a été légalisée par le premier article de la loi santé du 26 janvier 2016, loi Touraine, dite de modernisation de notre système de santé, c'est un organisme fourre-tout, un espèce d'étouffoir institutionnel qui est censé rassembler l'ensemble des associations d'usagers, d'aidants, de familles, qui sont agréées nationalement par le ministère de la Santé pour représenter les usagers, les patients dans les instances de santé, les commissions des usagers, les conseils de surveillance des hôpitaux et les différentes instances, bien. Et seules les associations agréées au plan national peuvent être membres à taux plein de l'UNAAS, Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé.
Au passage, une petite vanne. Où est passé le U d'usager dans le sigle UNAAS?
Moi, d'après moi, les usagers sont passés à la trappe et sont le prétexte pour un certain nombre d'affairistes de la représentation institutionnelle des usagers pour faire carrière, prospérer, avoir des subsides, puisque les fonds qui financeront l'UNAAS, c'est un pourcentage à déterminer de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, qui est fixé tous les ans par le Parlement, quand il y a le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est voté par le Parlement sur proposition du gouvernement.
C'est loin d'être des sommes négligeables, hein. C'est millions, ça se compte en millions d'euros.
Absolument. Alors il se trouve là-dessus que les associations comme la nôtre, qui ont le CRPA un agrément régional en Île-de-France pour la représentation des usagers, ne peuvent pas être membres de plein droit de l'UNAAS, mais peuvent être membres de plein droit des URAAS, les unions régionales des associations agréées d'usagers du système de santé, avec finalement un empêchement pour les associations simplement agréées régionalement d'avoir voix au chapitre au niveau de l'UNAAS. Donc l'UNAAS, c'est l'organigramme institutionnel autorisé par le gouvernement et par le ministère de la Santé, puisque d'abord il faut savoir que les statuts de l'UNAAS ont été agréés par arrêté du ministère de la Santé, hein, au mois d'avril dernier, par un arrêté publié au journal officiel. Bien. Donc c'est l'organisation étouffoire des associations nationalement agréées pour la représentation des usagers du système de santé, qui ont des antennes régionales, lesquelles antennes régionales sont formées des associations ayant un agrément régional pour la représentation des usagers du système de santé, et le tout est censé, et c'est là où ça se corse. L'UNAAS a quatre missions à la base. L'UNAAS a vocation à être l'interlocuteur des pouvoirs publics en matière d'usagers du système de santé, bien, avec des missions confiées par décret. C'est ce décret qu'on a attaqué devant le Conseil d'État le 13 mars. Et surtout, l'UNEA s'est habilité à concentrer les postulations pour les représentations des usagers du système de santé dans les instances, pour présenter l'ensemble de ces postulants sous le sigle de l'UNEAS, de sorte que l'UNEAS soit sûr que ces postulants se voient attribuer le poste de représentant des usagers. Si bien que les associations qui ne sont pas membres de l'UNEAS, qui n'adhèrent pas à l'UNEAS, seront déconcurrentialisées si elles postulent, si elles envoient des postulants, alors que l'UNEAS envoie les siens. Si bien qu'il se crée là, par la loi et par le décret, une espèce d'union d'associations qui est autorisée à regrouper les postulations pour les présenter devant différentes instances, si bien que cette union d'associations étant totalement parrainée par le ministère de la Santé, par le gouvernement, par ces postulants vont être pris, vont être admis comme représentants des usagers, et les autres associations qui refusent ou qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être membres de l'UNEAS vont se voir graduellement marginalisées. Cela revient à confier à l'UNAS, c'est ce que nous contestons dans notre recours au Conseil d'État qui a été déposé le 13 mars dernier. On a été 4 associations requérantes. Cela revient à former petit à petit un monopole dans la représentation des patients et des familles et des aidants, un monopole dans la représentation des usagers en France, qui est inadmissible. Cela place l'UNAS en position de monopole, et celles et ceux qui ne sont pas dans les cordes de ce rouleau compresseur interassociatif sont marginalisés, mis de côté, et progressivement seront priés d'évacuer le terrain. Ce qui n'est pas tolérable.
Est-ce que tu peux citer les autres noms ?
Alors, les autres associations requérantes, alors tout d'abord, moi j'avais remarqué dès la fin 2016, dès l'été 2016, quand Édouard Couty, qui avait été chargé par la ministre Marisol Touraine de monter le schéma de préfiguration de l'UNAS, avait émis un premier rapport d'étape avec les principales contributions associatives, des contributions critiques, parce que puisque l'UNAS, il faut savoir, c'est le nouveau nom du collectif interassociatif en santé, le CIS, qui n'avait pas de couverture légale, qui s'est monté en 96-97 pour rassembler les associations d'usagers. Et en fait, l'UNAS, c'est le nouveau nom du CIS, et puis à leur dernier âge, ils ont changé de nom. J'avais remarqué que...
Donc le CIS, ça n'existe plus.
Le jour même de l'Assemblée générale de fondation de l'UNAS, le 21 mars, l'après-midi même, le CIS faisait une Assemblée générale en décidant de se dissoudre et de se fondre dans l'UNAS.
D'accord.
Donc l'UNAS, c'est le nouveau nom du CIS. Et le 23 mai a eu lieu une AG, alors là, ouverte, parce que le 21 mars, c'était une AG temporaire. Le 23 mai dernier, a eu lieu une AG en bonne et due forme de l'UNAS, qui a décidé de changer de nom, et qui s'appelle France Association Santé, France Asso Santé, et qui a mis à sa tête Alain-Michel Serretti, qui est le fondateur en 97 du Lien, une association contre les infections nosocomiales, qui est un homme d'affaires, un PDG, politiquement à droite, ayant d'énormes entrées dans le monde politique, si vous voulez, et qui a pu, à partir de 2006, être désigné conseiller santé auprès du défenseur des droits. Donc c'est là, typiquement, un homme d'affaires. Alors le programme d'Alain-Michel Serretti est intéressant, il veut dynamiser la représentation des usagers et en finir avec les représentants potiches, mais il s'agit bien d'un PDG et d'un homme d'affaires. C'est bien un homme d'affaires très introduit en politique. Alors les 4 associations requérantes, qui sommes-nous ? Tout d'abord, c'est la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, qui s'est mise en place il y a une dizaine d'années, contre les restructurations hospitalières, la loi Bachelot, hôpital, patient, santé, territoire de 2009, et la destruction du tissu hospitalier de proximité, et qui regroupe des professionnels, des politiques, des familles, des élus, contre la déstructuration du tissu hospitalier, et qui a très rapidement pris des positions. Cette association a un agrément national, des positions critiques contre l'UNAS, puisque précisément, pour elle, c'était un étouffoir, que c'était l'organe de requalification du CIS, et que pour eux, qui coalisent beaucoup de professionnels, de proches, des élus, des aidants, au niveau des hôpitaux de proximité, leur inclusion dans l'UNAS n'avait strictement rien d'évident. Donc la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, l'association Grandir sur les hormones de croissance, notamment, c'est une association qui notamment s'est battue contre l'hormone de croissance contaminée, hein, et une association d'usagers sur le terrain du sida, Actif Santé, alors qui prône de son côté, et là nous on est plus en accord avec cela, une prise de parole autonome et libre des usagers. Des usagers eux-mêmes, des malades eux-mêmes, en l'espèce du sida. Et l'on sait que AIDE, la principale association du sida, ça a été un étouffoir gigantesque. Hein. L'association AIDES a été vraiment le gros truc institutionnel. Donc à ces quatre associations, on est tombé d'accord pour se partager les honoraires d'avocats. On a vu le recours engagé au Conseil d'État avec maître Raphaël Meillet du barreau de Versailles. Et finalement, bon, moi, j'ai travaillé avec Raphaël Meillet sur ce recours, et ce recours a été déposé au Conseil d'État le 13 mars. Donc alors, ce qui va se passer, c'est que ce recours est un recours contre le décret lui-même du 26 janvier 2017 qui a préfiguré les statuts de l'UNAAS en ce que, si vous voulez, ces statuts devaient correspondre à ce que le gouvernement et à ce que l'exécutif avait préfiguré. Et quitte après à ce qu'il y ait des négociations avec les associations membres. Nous, ce qu'on conteste, c'est que ce n'est pas... D'abord, l'UNAAS crée l'exécutif, et celles et ceux qui dirigent l'UNAAS mettent sur pied une interorganisation, une union d'organisations qui forme un monopole. Cette position de monopole n'est pas tolérable pour nous, on le conteste, tout d'abord. Ensuite, on conteste le fait que le pouvoir réglementaire ait pouvoir pour asseoir des statuts qui vont être librement contractés entre les parties. Puisque quand même, le droit des associations, c'est que les membres d'une association contractent, nous, un contrat d'association, librement, sans qu'il soit tenu par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir gouvernemental, par le gouvernement, hein, par son administration, et qu'il y a donc une incompétence de l'auteur. Le pouvoir réglementaire n'a pas pouvoir de préfigurer les statuts d'une association qui va être librement contractée entre ses adhérents. Donc on verra bien ce que le Conseil d'État va nous dire. Nous, ce qu'on espère, ce qu'on attend, c'est que le Conseil d'État soit fasse droit à nos moyens et annule une partie de ce décret, ou alors n'annule pas ce décret en disant que ce décret prévoit que les associations adhèrent librement à l'UNAAS, donc il n'y a pas d'obligation, mais... Et ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère, que le Conseil d'État nous dise qu'il ne peut pas y avoir, concernant l'UNAAS, de monopole dans la représentation des usagers. Si l'on nous dit cela, de même que si le Conseil d'État nous dit que l'UNAAS ne peut pas concentrer dans ses mains par monopole l'ensemble des postulants et imposer ses postulants dans la représentation des usagers. Si le Conseil d'État nous dit cela, même en rejetant notre pourvoi, nous considérons que ce sera intéressant, puisqu'une association d'usagers qui présentera des postulants, qui voudra intégrer telle ou telle instance et qui se verrait opposer la présence de l'UNAAS ou la présence de n'être pas, ou l'argument de n'être pas membre de l'UNAAS, actuellement France Association Santé, pourrait répondre, désolé, il y a un arrêt du Conseil d'État qui dit qu'il ne peut pas y avoir de monopole en la matière, donc vous nous laissez tranquille et vous considérez notre postulation correctement. Parce que autrement, ce que cela revient à ce que les instances, les commissions des usagers, les conseils de surveillance des hôpitaux, les instances de concertation dans les ARS pourront dire non, nous on choisit nos interlocuteurs. L'UNAAS, actuelle France Association Santé, est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics par décret, par voie législative. C'est avec eux qu'on discute, les autres dehors. Donc ça, c'est pas tolérable. Et ça revient à étouffer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, normalement, c'est ce fait que tout ce qui est santé se discute à travers des concertations entre les différents acteurs.
Et une question une petite question au niveau du principe même de la constitution de l'UNAAS. Est-ce que le fait d'inclure dans un total qui est quand même assez impressionnant, de 70 associations...
73.
Oui, d'usagers...
Nationalement agréés.
Oui, d'associations d'usagers du système de santé. Est-ce que le fait donc d'inclure dans ces 73 quatre misérables petites association d'usagers de la psychiatrie, est-ce que ça ne s'inscrit pas déjà dans une tentative qui est en cours et qu'on connaît bien, et que notamment certains soignants contestent, une tentative de médicalisation de la psychiatrie, c'est-à-dire une tentative qui va dans le sens d'une assimilation de la psychiatrie vraiment à le système général de santé publique, de soignants, et donc finalement, dans un tel cadre, est-ce qu'on peut concevoir que la voix spécifique des usagers de la psychiatrie puisse se faire entendre ?
Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Moi, je vous réponds que d'ores et déjà, dans l'UNAAS, sont membres, d'abord les associations d'usagers en psy et de famille, hein, qui étaient membres du CIS, hein, de toutes les façons, ont rallié, et que ces associations sont les suivantes. Elles ne sont pas quatre, elles sont cinq. Hein. Finalement, j'avais fait une erreur dans mon premier communiqué, c'est cinq. Il y a l'UNAFAM, il y a Schizoï, il y a l'UNAFAM, qui est une très grosse centrale. Il y a Schizoï, il y a l'APNAPSI, il y a Argos 2001, il y a Advocacy France, et ne manque des associations en psy agréées nationalement que France Dépression et AFTOC. Il n'y a que ces deux-là qui manquent. Les cinq autres sont présentes. Alors, je dois dire que le jour de l'AG fondatrice de l'UNAAS, le 21 mars dernier, la représentante de l'UNAFAM a fait savoir que l'UNAAS étant séparée par collège, les collèges famille, les collèges patients, les collèges action consommateurs, etc., il y a sept collèges en tout, l'UNAFAM avait une question posée qui était que, comme ils envisagent de modifier leur statut cette année et d'inclure parmi leurs membres de plein droit les patients de leurs prestations, l'UNAFAM est potentiellement en train de devenir la principale association de famille, mais aussi la principale association de malades du pays. Ça, c'est très important à savoir, hein, parce que comme ils ont formé une centaine, ou plus de 100 à 150 groupes d'entraide mutuelle et autres associations médico-sociales, s'ils incluent leurs usagers comme adhérents au plein de l'UNAFAM, je vous prie de croire qu'ils flambent les effectifs et qu'ils deviennent en France la principale association de malades. Et que c'est d'ailleurs un de leurs objectifs stratégiques. Alors l'UNAAS, Advocacy France, à travers Claude Deuge, qui a fait un plaidoyer auprès d'Edouard Couty, le conseiller de la ministre de la Santé, a obtenu qu'il y ait une séparation claire entre le collège patient et le collège famille. Et Edouard Couty, qui a été le président intérimaire, avant que ce soit Alain-Michel Cerretti, a clairement répondu à l'UNAFAM que l'UNAFAM ne pouvait rentrer que dans un collège, le collège famille. Puisque l'UNAFAM demandait à pouvoir adhérer dans deux collèges de l'UNAAS, le collège famille et le collège patient. Mmh. Alors là-dessus, Advocacy France a réussi à se faire entendre. Donc si vous voulez, en fait, l'UNAFAM va intégrer le collège famille, Schizoï, je ne sais pas exactement quelle décision ils vont prendre, et vont être intégrés dans le collège patient des associations d'usagers en psy très institutionnelles, et dans laquelle, finalement, nous autres, les voix divergentes, les voix contestataires sont étouffées. Ouais. Advocacy France donne une voix à travers son adhésion de principe au réseau européen des usagers survivants en psychiatrie, et prône en coalition avec l'ENUSP l'abolition des traitements sous contrainte, mais c'est complètement folklorique. C'est complètement folklorique. En réalité, on voit le dernier ouvrage de Claude Deutsch, Fou et alors, où Claude Deutsch dit, avec la leader d'Advocacy France, admettez tous d'être fous, folle dingue, folklorique, etc., etc. Quand on rentre dans l'advocacy, on est prié de mettre profil bas, de se déclarer profondément malade, dépendant des institutions, dépendant des soignants, et prêt à ramper auprès de ces gens-là, qui se servent de vous en tant que malade pour ramasser des subventions dans des protocoles de recherche. C'est quand même assez grave. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'Advocacy France tend à transformer certains de ses adhérents en cobayes auprès d'instances de recherche en sciences sociales qui valident leur expertise expérientielle. C'est quand même très douteux. Donc là-dessus, c'est vrai, pour nous, le regroupement des principales associations institutionnelles d'usagers et de familles en psy dans l'UNAAS, l'actuelle France Association de Santé, pose la question de notre étouffement. Nous, nos paroles étouffées. Vous pensez bien que c'est pas pour rien que depuis 7 ans, je suis au créneau en tant qu'ancien président du GIA et en tant que président du CRPA à protester pour qu'on se fasse entendre de façon distincte par les pouvoirs publics et au niveau des institutions parlementaires et autres. C'est pas pour rien. En effet, le CRPA a voix au chapitre. En effet, on est concerté. En effet, notre site internet est considéré comme un site de référence et fait qu'on est inclus dans le dispositif de fait. Mais il y a là, à travers l'UNAAS, de toutes les façons, une volonté d'homogénéiser les différentes positions et les différentes prises de parole des usagers en santé, quels qu'ils soient, et de tout regrouper en une seule représentation, une seule voix, parler d'une seule voix, donc d'une seule tête. Je veux voir une seule tête, je veux entendre qu'une seule voix, etc., etc. Ce qui est l'éternel désidérata des ministres successifs de la Santé depuis 2003. Dès 2003, Jean-François Mattei, ministre de la Santé, avait affirmé qu'en matière de représentation des usagers en santé, il fallait parler d'une seule voix. C'est même ainsi qu'on nous a imposé la FNAPSI comme voix unique.
Oui, oui. Mais bon, donc tu as bien confirmé que c'est un moyen très très efficace de faire disparaître la spécificité de la parole des usagers de la psychiatrie. C'est-à-dire en les assimilant à des usagers de la santé publique.
Oui, c'est vrai. De ce que c'est-à-dire la médicalisation. En médicalisant le terrain, alors que la psychiatrie a à voir avec... la psychiatrie est une discipline répressive. C'est une discipline qui, dans la mesure où s'y exerce des soins sous contrainte, assume des tâches de police. Alors ça, c'est vrai, ça disparaît. Hein.
Voilà, alors en parlant de cela, on a constaté ces dernières années une augmentation des hospitalisations sans consentement. Il y a eu des rapports qui ont été produits par rapport à ça, le rapport de Magali Coldéfi.
Le rapport sur l'évaluation de la loi du 27 septembre 2013 pour laquelle on avait été auditionné copieusement. D'ailleurs, ce rapport nous cite beaucoup. Hein. On est une des principales organisations citées par ce rapport puisqu'on a beaucoup travaillé sur la loi du 27 septembre 2013. Et comme il a été publié concomitamment au bulletin de l'équipe de Magali Coldéfi sur l'étude statistique des soins sans consentement 4 ans après la loi du 5 juillet 2011, l'étude de Magali Coldéfi de février dernier fait apparaître que la hausse du nombre de personnes, parce que maintenant c'est plus les mesures qui sont comptabilisées, c'est les personnes, entre 2012 et 2015 est de 15% en plus. On passe en 2012, un peu moins de 80 000 personnes sont en mesure de soins sans consentement sur l'année, en 2012, à 2015, 92 000 personnes. Et l'analyse affinée de cela, c'est que ce sont les programmes de soins ambulatoires sans consentement, long cours, qui durent des années et des années, où l'on se contente de neuroleptiser par injection retard les gens, et des programmes de soins qu'on ne lève pas, qui accroissent, qui grèvent la file active, puisque ces mesures très pratiques pour mettre les gens sous médicaments au long cours et les abrutir au long cours sont les maintenant sous contrainte, n'étant pas levées durant des années et des années, cela vient, et comme il n'y a plus la contrainte des murs, cela vient accroître le nombre de personnes qui sont prises en charge en soins sans consentement.
Oui.
Et là, on voit ce que nous, on avait dénoncé dès le projet de loi Bachelot de 2010, quand je présidais le groupe Information Asile, à savoir que l'introduction des programmes de soins ambulatoires sous contrainte, sans la contrainte des murs, le fait de pouvoir maintenir légalement sous contrainte aux soins les gens en dehors des établissements, allait pouvoir permettre une hausse indéfinie de la population tenue sous contrainte aux soins en ambulatoire, puisqu'il n'y a plus la contrainte matérielle des murs, et qu'il n'était pas, il n'est pas interdit de penser qu'en quelques années, l'on puisse passer de 92 000 personnes en soins sans consentement, avec une inflation des programmes de soins, 100 000, 150 000 personnes et plus. Enfin, un délire médicamenteux, sécuritaire, horrible.
Au passage, on peut rappeler que dans la constitution de la loi de 5 juillet 2011, l'UNAFAM a été pour beaucoup dans l'adoption de cette mesure de soins.
Des programmes de soins ?
Oui, en ambulatoire.
Oh, Ben, ça a été le principal lobby, ouais, avec le lobby de la psychiatrie biologique, dont un syndicat de psychiatres a été grand porte-parole, l'IDEP, l'intersyndical de défense de la psychiatrie publique, anciennement dirigé par Norbert Skurnik, actuellement par un Mercuel de Sainte-Anne, ainsi que Fondamental, la Fondation Fondamental, ainsi que quelques autres. Le courant de la psychiatrie biologique porté par l'UNAFAM a emporté la légalisation des programmes de soins ambulatoires sans consentement, qui était réclamé par l'UNAFAM depuis sa fondation. Hein. L'UNAFAM réclamait depuis sa fondation toute facilité pour faire interner les personnes. Et notamment également la mise sur pied de dispositifs de SAMU psychiatriques destinés à intervenir au domicile même des gens en prévention des crises pour prévenir les hospitalisations ou pour pouvoir hospitaliser rapidement. Heureusement, il y a eu le contre des questions prioritaires de constitutionnalité et le fait que la procédure d'admission et de maintien dans les premiers jours en hospitalisation sans consentement était judiciarisée. Hein. Parce qu'il y a une complexification. Hein. S'il n'y avait pas eu cette complexification, ce serait une catastrophe. Alors, cela étant, le contrôle judiciaire... Ah, autre chose. Les dernières statistiques des contrôles judiciaires des hospitalisations sans consentement sorties annuellement par la chancellerie, le ministère de la Justice, font apparaître que pour 2016 encore, de la même manière qu'en 2015, en 2014 et en 2013, sur le volume global des mesures contrôlées par les JLD, 8% de mains ont été accordés, soit 6500 mains. C'est quand même beaucoup.
C'est
hein.
pas mal, oui.
Alors certes, il y a 90% de reconduction, hein, il y a 90% de maintien, mais quand on en est à ce que 8% de mains sont données, on se dit qu'en France, la France commence à prendre conscience qu'il faut avancer sur la question des droits fondamentaux des personnes psychiatrisées sous contrainte. Et là, on en vient à la recommandation de la HAS du 20 mars, du 20 février, je ne me rappelle plus.
Le CRPA fait un recours gracieux contre l'instruction relative aux pratiques d'isolement et de contention, titre APN News du 19 mai 2017.
Alors, pour être plus exact, la séquence est la suivante. Suite à la recommandation en urgence de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur le centre psychothérapeutique de l'Ain, publiée au JO du 18 mars 2016, qui avait eu un écho considérable et qui avait permis de mettre sur la place publique ce drame du fait que quand on est admis massivement en psychiatrie sous contrainte à l'heure actuelle, on trouve moyen sur un centre de sites, dans un centre de sites et dans un centre de services, de vous attacher immédiatement sur un lit en chambre d'isolement, vous laisser pourrir des jours, des semaines et pour certains des mois et au CPA des années.
Quand tu dis écho considérable, enfin c'est un petit peu l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, hein, ça a eu un certain écho. Mais malheureusement, que nous pensons vraiment très très limité par rapport à l'ampleur du scandale que en d'autres temps, en d'autres lieux. Enfin bon, ça aurait dû être c'est très triste de constater que la mise en évidence de tels faits, de telle réalité, finalement, est un écho aussi limité, qui n'est pas du tout proportionné à la gravité et du problème qui a été révélé.
Je comprends ce que tu veux dire. J'objecte simplement, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ça, ça fait très longtemps que je milite sur le terrain. Ça fait un quart de siècle quand même que je milite sur le terrain, 27 ans. Ça fait 16 ans et demi que j'occupe des responsabilités. Je sais que dans les années 2000, on avait un mal fou à médiatiser les abus en la matière. On n'était pas entendu des médias. Or là, moi, ce que je constate, c'est qu'en tout cas, l'impact politique et administratif a été quand même net, puisque la ministre de la Santé saisie en urgence par Mme Adeline Hazan. Ce qu'elle, moi, j'émets des critiques hein, sur Mme Adeline Hazan, sur la contrôleure générale des privations de liberté. Je suis relativement critique parce que je pense que son travail est essentiellement institutionnel, où elle ne s'adresse que pratiquement à des institutionnels, nous ignore et nous met de côté alors qu'on a été des acteurs essentiels. Mais enfin bon, peu importe. Le fait est que quand c'est fait, c'est fait. Alors à tout le moins, cette alerte du 18 mars 2016 au JO a permis que les pratiques du CPA soient stoppées et reconditionnées. Hein, parce qu'il faut savoir que l'HAS a mis un sursis à statuer sur l'accréditation du CPA, qu'un certain nombre de patients ont été élargis et qu'à l'heure actuelle se fait jour dans la commission médicale d'établissement du CPA, ce qui est mis sur la place publique, qu'un certain nombre de psychiatres de cet établissement du centre psychothérapique de l'Ain de Bourg-en-Bresse n'arrivent pas à normaliser leurs pratiques, n'arrivent pas. Attendez, oui, mais ça, c'est avant, ça n'apparaissait pas sur la place publique. Maintenant, ça apparaît sur la place publique et n'y arrive pas, si bien que les autorités de tutelle, avec l'association gestionnaire du centre psychothérapique de l'Ain, n'ont plus qu'une chose à envisager, c'est de changer les personnels. Ce qui est quand même assez curieux. Enfin, toujours est-il qu'on a un des ricochets et que le pouvoir politique s'est intéressé à la question. Qu'il y avait en parallèle la légalisation de la traçabilité de l'isolement contention par l'article 72 de la loi santé sur amendement du député Denis Robillard, dans le 26 janvier 2016, que c'était à effet et que du coup l'administration centrale a été obligée d'envisager de prendre des textes pour contraindre les établissements à obtempérer et aux textes et aux textes de loi et à la recommandation de la HAS qui est sortie le 20 mars dernier, qui est très restrictive. Alors là-dessus, la recommandation de la HAS suivie 9 jours après de l'instruction ministérielle sur l'isolement contention, relative à la réduction de ces pratiques d'ailleurs, très clairement, la recommandation de la HAS pose problème. Il y a un problème de ce côté-là. Certains disent que les recommandations de la HAS ne sont pas impératives. Or, moi, je suis désolé, l'état du droit veut, et en l'espèce, on a une recommandation qui est du côté des droits fondamentaux des patients et qui peut servir et qui a commencé à servir au niveau jurisprudentiel dans les contentieux, dans les contrôles des mesures d'hospitalisation sans consentement. D'après une jurisprudence du Conseil d'État du 27 avril 2011, les recommandations de la HAS, s'il y a contentieux, ont valeur impérative. Et la recommandation de la HAS du 20 mars est quand même très restrictive. Hein. Alors certes, elle n'a pas interdit la contention. Nous, on a prôné que d'abord soient interdites les mesures de contention et fortement encadrées les mesures d'isolement. Mais elle pose des conditions telles que désormais, dans les équipes, il y a des protocoles dans tous les sens à remplir et que si ces protocoles ne sont pas remplis, les accréditations peuvent être mises en péril. Hein. Et par ailleurs, les contentieux peuvent surgir. C'est surtout qu'il peut y avoir du contentieux. Et qu'il y a de la jurisprudence, d'ores et déjà, à ce jour, il y a de la jurisprudence là-dessus.
Oui, mais bon, c'est pas à toi qu'on va dire que pour qu'il y ait contentieux, il faut que il y ait des personnes qui portent le problème.
Alors justement, il y a eu de récents progrès de la jurisprudence dont le site du CRP va se faire écho. Alors ce ne sont certes que des décisions de la Cour d'appel de Versailles. C'est une seule Cour d'appel, hein, la Cour d'appel de Versailles. La Cour d'appel de Versailles est saisie de contrôles obligatoires d'hospitalisation sans consentement au cours desquels le contrôle de 12 jours au cours desquels la personne avait été mise en isolement contention, a décidé de se saisir à titre obligatoire de la légalité du bien fondé de l'isolement contention en même temps qu'elle se saisissait du contrôle de la mesure. Et elle a ordonné un certain nombre de mesures. Si bien qu'on est en train de venir à une judiciarisation de l'isolement contention dans le cadre des mesures d'hospitalisation sans consentement, ce qui constitue un début de progrès du droit très net. Donc si on va vers le fait que ça ne va pas être aux gens de saisir à titre facultatif le juge pour contrôle de la mesure d'isolement contention, si l'isolement contention, du moins c'est l'évolution de la jurisprudence, si les pratiques d'isolement contention ont cours lors d'une mesure qui doit être statuée obligatoirement par un juge, ces mesures pourront être assez rapidement examinées à titre obligatoire par le juge. Ce qui constitue un progrès. Alors, écoutez, ce ne sont là que des progrès du droit. Hein. Or, les progrès du droit, à un moment donné, il y a des questions de principe qui sont derrière. Les progrès du droit ne sont pas suffisants par rapport à ces questions de principe. Oui, La question de principe, c'est que nous, on voudrait que ce soit interdit, ces pratiques.
Oui. On rappelle que le pouvoir juridique n'a pas toujours prise sur le... disons, sur les pratiques médicales.
Tout à fait. Tout à fait. Le contrôle juridique est formel. Il est essentiellement formaliste. Mmh. C'est sur les mesures elles-mêmes et pas sur le contenu, c'est vrai.
Et alors, par exemple, il est très difficile de discerner. On dit par exemple que les pratiques d'isolement et de contention doivent être utilisées en dernier recours ou en cas d'extrême. Voilà. Alors c'est très très difficile à définir sur le plan juridique ce genre de choses.
Alors si vous voulez, il a été introduit notamment par la HAS dans la recommandation et notamment dans l'obligation de traçabilité que le caractère subsidiaire des mesures d'isolement contention, le fait qu'il s'agisse de mesures de dernier recours,
oui.
Donc qui sont subsidiaires par rapport aux mesures plus souples, ça doit être documenté. Ça doit être documenté, voilà, dans le dossier. Mmh. Or, si l'on en vient maintenant, en vertu d'une ordonnance de la Cour d'appel de Versailles du 29 mai 2017, qu'on va rendre public sur notre site bientôt, si l'on en vient à ce que les éléments de traçabilité des mesures d'isolement contention, si la mesure elle-même est contrôlée, doivent monter obligatoirement vers le JLD et vers les avocats pour qu'ils puissent être discutés, ah bah à ce moment-là, ça devient déjà plus transparent.
Oui,
mais ce ne sont là que des progrès du droit, c'est tout.
Tu as parlé tout à l'heure de protocoles qui doivent être suivis. Oui. Il y a l'histoire de ce fameux registre répertorier, repointer toutes les mesures à la fois d'isolement et de contention prises. Et quand la présentation de ce registre, ça doit être vraiment ultra détaillé et tout. Mais quelles sont les structures qui vont être chargées de porter le regard sur ces protocoles et sur ce registre et de vérifier qu'il est tenu d'une façon exacte,
oui,
et
c'est
rigoureuse.
C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ce recours gracieux contre l'instruction ministérielle du 29 mars 2017, à savoir que pour nous, à partir du moment où l'article 72 de la loi santé sur la traçabilité de l'isolement contention et donc sur l'instauration d'un registre dit qu'il s'agit d'une décision d'un psychiatre et non d'une prescription, ou décision au lieu de prescription, alors l'on a quitté le champ strictement médical pour le champ du droit public, de la décision opposable de droit public négatif par rapport aux administrés. La conséquence en est qu'il y a un ensemble de conséquences juridiques qui n'ont pas été tirées, que nous demandons que ces conséquences soient tirées, à savoir que s'il s'agit d'une décision privative de liberté, ce qui est le cas, alors il doit y avoir notification de cette mesure à l'intéressé, notification à sa personne de confiance, ouverture de droits et voies et délais de recours, indication, et effectivité des droits de recours. Or, la seule effectivité, c'est que ces mesures d'isolement contention soient judiciarisées. Et c'est ce que nous réclamons comme modification par rapport à cette instruction. Et nous nous apprêtons soit à recevoir une réponse alambiquée, éventuellement positive, d'ailleurs, du ministère de la Santé. Ils sont en train d'y réfléchir. Ce n'est pas exclu que, se disant que le Conseil d'État peut nous donner gain de cause, il fasse droit à nos moyens. Si ce n'est pas le cas, on va aller s'expliquer devant le Conseil d'État à dater du mois de juillet. Justement, c'est ce qu'on réclame. C'est ce que vous comprenez. Ce que vous dites est très vrai. Le registre n'est communicable a priori qu'aux autorités de contrôle de type commission départementale des soins psychiatriques, parlementaire contrôlant un établissement, contrôleur général des lieux de privation de liberté, commission des usagers à l'intérieur de l'hôpital, afin d'établir un rapport annuel vers l'Agence régionale de santé sur la politique menée par l'établissement pour réduire ce genre de pratiques. Pour nous, ce n'est pas suffisant. La traçabilité de l'isolement contention doit monter à une autorité judiciaire qui contrôle si, oui ou non, ces mesures sont légitimes et légales. Pour nous, c'est la judiciarisation qui doit l'emporter. Ce pourquoi nous faisons un recours. Alors, on a fait notre recours gracieux le 9 mai. Il a été reçu le 11 au ministère de la Santé. Il est en cours de traitement à la DGOS, à la Direction Générale de l'Organisation des Soins. Bien. Et donc, le 11 juillet, les 2 mois de ce recours gracieux seront écoulés. Si on n'a pas de réponse, on aura un rejet. En cas de rejet, on pourra se pourvoir à partir du 12 juillet devant le Conseil d'État en annulation de cette instruction et en annulation de ce rejet. Je pense que le Conseil d'État devrait nous donner une satisfaction partielle à tout le moins. Parce que toute la question juridique est politique. Ce n'est pas seulement une question juridique, c'est une question politique. Le député Denis Robillard, dans son amendement qui a amené l'article 72 de la loi santé sur la traçabilité des pratiques d'isolement contention, Il y a eu un débat parlementaire sur le mot « décision ». Ces mesures relèvent d'une décision d'un psychiatre et pas d'une prescription. Le mot « décision », « décision administrative » emporte un certain nombre de conséquences en droit public qui doivent amener d'ailleurs à considérer qu'il ne s'agit pas seulement d'une décision d'un psychiatre, mais d'une décision d'un psychiatre par laquelle le directeur de l'établissement autorité de droit public prend une décision implicite que le psychiatre matérialise. Et cette décision est susceptible de recours puisqu'elle porte grief. Bon, ça, c'est la cuisine de droit public, je vous passe les détails.
D'accord. Donc, un recours qui a été envoyé au ministre de la Santé le 9 mai. Et si le ministère apporte une réponse, qu'est-ce que vous pensez qu'elle serait ?
Alors, on n'est pas exclu qu'on reçoive une réponse. Hein. J'ai eu au téléphone la fonctionnaire qui traite ce recours gracieux à la Direction générale de l'organisation des soins. Ils sont là en train de se poser des questions. La question est la suivante. S'ils nous donnent satisfaction, s'ils font droit pour une partie de nos demandes, au niveau de la hiérarchie des textes, l'instruction n'est plus le bon vecteur, parce qu'une instruction, c'est pas un texte à valeur réglementaire, c'est un simple texte d'application qui n'a pas valeur impérative. Or, ce que nous, on demande, relève du vecteur législatif. Et donc, on doit... Alors, si ils sont là sur une situation qui est, en quelque sorte, piégée, puisque... S'ils quittent le terrain de l'instruction en faisant droit, hein, ils doivent changer de vecteur. Et s'ils ne quittent pas et s'ils rejettent notre demande, ils ne sont pas sûrs que le Conseil d'État ne nous donne pas satisfaction.
Donc ce n'est pas une instruction, vous demandez, mais une loi.
Non, ce n'est pas si simple. Nous, on pense que ça va être au Conseil d'État de dire le droit en la matière et d'indiquer dans son arrêt à intervenir si notre demande est rejetée, bien entendu, si oui ou non on passe par la voie réglementaire ou par la voie législative. Normalement, l'article 34 de la Constitution sur la répartition du terrain entre ce qui est du législatif et ce qui est du terrain réglementaire veut que ce qui encadre les libertés publiques relève du terrain législatif et pas du terrain réglementaire. Or, une instruction n'est même pas du terrain réglementaire. Dans la hiérarchie des normes, c'est un simple texte d'application. C'est une simple directive donnée aux fonctionnaires et aux établissements publics.
Oui, mais est-ce que...
Ça, c'est la cuisine juridique.
Oui, voilà. Mais c'est... en en parlant dans un autre langage que celui de la cuisine juridique, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui remet trop, je dirais, trop fondamentalement en cause le pouvoir psychiatrique tel qu'il s'exerce, qu'il a commencé à s'exercer dans l'asile et qu'il a continué à s'exercer de façon absolue. Et c'est pas seulement moi qui le dis, hein. Il y a plein d'autres personnes qui ont fait ce constat. Qui a continué à s'exercer entre quatre murs en tant que pouvoir absolu. C'était...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Et que donc...
C'est quoi notre cours ? Notre cours est de même que la politique que nous avons menée, les recours successifs que nous avons introduits et les modifications qu'il a fallu introduire sur la base des gains qu'on a obtenus à partir du GIA puis à partir du CRPA. C'est de faire rentrer le pouvoir judiciaire et le débat judiciaire dans ces quatre murs et dans le huis clos psychiatrique. Or, pour nous, étant donné que la contrainte psychiatrique, la répression psychiatrique a un avenir considérable, il est impératif qu'il y ait des contre-pouvoirs qui soient mis sur pied là-dedans. Ces contre-pouvoirs n'existaient pas avant. Hein. Ces contre-pouvoirs n'existaient pas dans les murs. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, l'introduction du contre-pouvoir judiciaire, l'introduction du contre-pouvoir de la parole des personnes de confiance, des usagers eux-mêmes en désaccord, et également l'instauration de contre-pouvoirs par rapport aux représentants institutionnels des usagers, tout cela, c'est très important. Tout cela, c'est très important, vous voyez. Oui, de toutes les façons, il s'agit de rompre le huis clos psychiatrique. De toutes les façons.
Merci André pour cette émission, d'avoir participé et d'avoir donné surtout des nouvelles au sujet de l'expression des patients en psychiatrie qui est toujours aussi muselée et il faut se battre tous les jours pour qu'elle se libère. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine.
Merci.
Salut à tous. Salut à toutes.
Ça va, c'était intéressant.
Enfin.
Parce qu'on s'aime à la folie.
Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Au psychiatrisé en sursis tous les marmots de la zone grise, genre agité trop bouillant dès la matière, à ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, ou escapé de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet, comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel, de partout ça se rétrécit, les médocs ont bâillonné, l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil, des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne la camisole, spare de toutes les douleurs. Nardena mort, sa turbine à la chienne, de la crèche à la morgue, à la longue les injures ont façonné les corps. Les vautours sont de sortie, psychiatre fait ton office, fait nos vies des parcours, promenade en zone grise. Pareil que je relève de la psy, y'a problème. C'est pas dit que je m'en relève, ici le premier garde chiant, mon garde à vous, veut que tu te mettes à table, comme en garde à vue, sale. Peu de garde-fous, peu de cartes à jouer, c'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit. L'infirmier dort paisible pendant que mes morts ou vivent, joue de la corde à vie, serre des dents. Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, Satan du sommeil du juste. Second couplet, pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir, de piller le bazar, de brûler le trésor. Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit. Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. C'est certain qu'à Sainte-Anne, ils en traitent par centaines de vrais mots, réduits à des symptômes. Mais bordel, on se soigne pas de ce monde, ils se rappellent à nous, partout, tout le temps. Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut t'essouffler à tout instant. Reste à savoir qui commence, est-ce la terre ou nos têtes? C'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée toxique, même carrière en friche, dont de grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang, bat de page ou sur les murs de ta cellule, la psy m'a tué. Y'avait quelqu'un au fond de la cage, rebelle, en colère, impatient, puis plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie, j'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Vestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire, pas le choix, mes délires seront féconds, ou bien alors mortels, ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, Satan du sommeil du juste. Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux et la folie féconde ou mortelle. Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie. C'est le bordel, carnaval des agités.